Nous avons vu différentes choses concernant la prière, les conditions de la prière, prière avec foi, prière persévérante et insistante. Nous allons voir aujourd'hui ce que c'est que prier par l'Esprit. Prier par l'Esprit. On s'est imaginé tout à fait faussement que prier par l'Esprit, c'était uniquement prier en langue. Ce n'est pas vrai. J'aime pas, moi, laisser subsister des choses qui ne sont pas vraies, qu'est-ce que vous voulez. Ça, je ne dis pas que ce soit mal de prier en langue, bien entendu, n'est-ce pas? Heureux ceux qui peuvent prier en langue à certains moments, cela les édifie eux-mêmes, c'est bien. Mais si je prie tout le temps en langue, comment vais-je pouvoir présenter à Dieu des requêtes, des demandes, demander et l'on vous ouvrira, nous a dit Seigneur. Comment je peux demander si je parle en langue et que mon intelligence est stérile, comme dit l'apôtre Paul, c'est-à-dire que je ne sais pas ce que je dis. Je dis d'excellentes choses, n'est-ce pas, des mystères, mais je ne sais pas ce que je dis. Alors, regardez 1 Corinthiens 14, 13. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence, je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Alors, ici, l'apôtre Paul semble nous dire ceci, prier par l'esprit, c'est prier en dehors de l'intelligence, outre à l'intelligence, c'est-à-dire sans que l'intelligence soit active, sans qu'il y ait compréhension de ce que l'on dit à Dieu, n'est-ce pas? Il semble que ce soit là, effectivement, ici, l'apôtre Paul a fait en somme une opposition entre prier par l'esprit et prier par l'intelligence, c'est-à-dire avec compréhension de ce que l'on dit. Mais en réalité, l'apôtre Paul a employé aussi l'expression de prier par l'esprit tout autrement. Dans Éphésiens 6:18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints, priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Priez en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, et notamment pour les saints. Ce sont des prières, par conséquent, que je comprends, c'est des prières que mon intelligence va également, n'est-ce pas, nourrir. Il y aura un apport de mon intelligence, et pourtant ce sera par l'esprit, des prières par l'esprit. C'est-à-dire des prières qui vont être inspirées, guidées par le Saint-Esprit de Dieu, bien entendu. Dans Jude 20, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Ce qu'est cette prière par le Saint-Esprit? Il y a là tout un domaine qu'en général on n'envisage pas. Il y a la prier par l'esprit qui veut dire prier en langue, prier en dehors de l'intelligence, en dehors de toute compréhension, mais prier par l'esprit ou par le Saint-Esprit, c'est encore et c'est également prier animé par le Saint-Esprit. Comment voudriez-vous qu'on abandonne la prière à la chair, à l'homme? Est-ce que la chair peut prier? Elle qui ne peut pas faire la volonté de Dieu. Qui ne le peut pas, dit l'apôtre Paul. Elle ne le peut pas. Et elle qui est opposée à l'esprit. La chair et l'esprit sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez, dit l'apôtre Paul. Alors comment voulez-vous prier par la chair? Il ne faut pas que ce soit l'homme qui invente sa prière, autrement dit. Il faut que ce soit l'esprit qui le guide, qui le pousse, qui souffle sur lui, mais cela ne veut pas dire qu'il n'utilisera pas son intelligence, c'est-à-dire sa compréhension, n'est-ce pas? Tout est mobilisé dans l'homme par l'esprit pour parler à Dieu. Mais, en réalité, si l'on creuse un peu cette question-là, de prier par l'esprit, on s'apercevra bien vite qu'il y a là un domaine tout à fait particulier. Parce que, voyez-vous, si j'étudie la prière par l'esprit en me contentant de quelques passages, ben je vais peut-être m'arrêter à ce que je viens de dire. Ça suffira, ça paraîtra suffisant. Il faut que l'esprit inspire nos prières, nous fasse connaître nos besoins. Puis si nous n'arrivons pas à les discerner, nos besoins, ben le Saint-Esprit prendra le relais et nous fera parler en langue ou par des soupirs inexprimables. Bon, je pourrais me contenter de ça. Mais si j'ouvre la Bible, si je consulte la Bible, ce qu'il faut toujours faire dans son entier, alors je m'aperçois qu'il y a là tout autre chose. Et je m'aperçois que prier par l'Esprit de Dieu, c'est aussi prier avec l'Esprit, prier dans une adoration en esprit et en vérité, c'est en réalité chercher la relation de prière avec Dieu. Chercher une relation de prière avec Dieu. Évidemment, nous avons le Saint-Esprit, nous sommes le temple du Saint-Esprit, mais ne croyez pas que nous sommes un temple comme était le temple de Jérusalem, des pierres inertes. Nous sommes des pierres vivantes. Et il faut que, par conséquent, la vie de notre être soit activée, dirigée, utilisée par le Saint-Esprit dans la prière notamment. Alors, pour voir cela, nous allons d'abord lire dans 1 Chronique 29. Comme je vous l'ai dit, l'Ancien Testament est indispensable. Indispensable, mes amis, à notre enseignement. Ah, méfions-nous de ceux qui, avec une courte vue, diraient « Le Nouveau Testament nous suffit, c'est pour l'Église, c'est pour les chrétiens, et l'Ancien Testament, nous n'en avons pas besoin. » Ceux qui diraient ça seraient des aveugles, tout simplement des aveugles. Et je ne voudrais pas, chers amis, que nous fussions ici des aveugles. Nous avons besoin de l'Ancien Testament, Paul nous le dit bien. Alors, 1 Chronique 29-10. Nous avons ici la prière de David. Et c'est une prière modèle. David était cet homme magnifiquement inspiré par le Saint-Esprit. Vous me direz, comment, mais il était dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, bien sûr. Mais dans l'Ancienne Alliance, l'Esprit n'était pas répandu sur toute chair, mais il était répandu sur certains hommes. Et David était le roi prophète, ce chantre agréable à Dieu, agréable à Dieu. Ah, il a commis une grande faute, oui. Eh bien, que celui parmi nous qui n'a pas commis de faute lui jette la première pierre. Ben, le diable a terrassé, parce qu'il était très haut, parce qu'il était devenu grand, comme nous dit, grand aux yeux de Dieu, comme nous le dit l'Écriture. Il était devenu grand. C'était un homme, David, qui comprenait la pensée de Dieu. Il la sentait, il la ressentait avant que Dieu ait exprimé quoi que ce soit. Et Moïse l'a fait aussi cela. Moïse l'avait fait aussi. Vous voyez les grands hommes de Dieu. Ils supputaient la pensée de Dieu. Ils la pressentaient. Ils avaient une espèce de flair spirituel, si je peux dire, n'est-ce pas? Et ils sentaient quelle était la volonté de Dieu. Vous savez que ça nous serait bien utile, ça, hein? Nous serait bien, bien utile. Et nous utiliserions la parole de Dieu souvent, je ne dis pas toujours, souvent, plus pour contrôler, pour nous contrôler, que pour prendre le point de départ en elle. Voyez-vous, il arrive souvent que l'Esprit nous montre des choses, Mais attention, est-ce que c'est bien... Alors, nous contrôlons avec la parole de Dieu, si nous sommes bien, n'est-ce pas, dans la bonne voie. Mais l'Esprit nous fait devancer souvent la parole de Dieu écrite. Hein? Et nous avons cette prière de David que nous allons lire. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit, béni sois-tu d'éternité en éternité, Éternel Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. C'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je et qui est mon peuple que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous sommes devant toi des étrangers et des habitants comme tous nos pères. Nos jours sont sur la terre sont comme l'ombre et il n'y a point d'espérance, l'espérance sur la terre. Éternel notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison à toi, à ton saint nom, et c'est à toi que tout appartient. Je sais, ô mon Dieu, que tu sondes le cœur et que tu aimes la droiture. Aussi je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur. Et j'ai vu maintenant avec joie ton peuple qui se trouve ici t'offrir volontairement ses dons. Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nos pères, maintiens à toujours dans le cœur de ton peuple ses dispositions et ses pensées et affermis son cœur en toi. Donne à mon fils Salomon un cœur dévoué à l'observation de tes commandements, de tes préceptes et de tes lois, afin qu'il mette en pratique toutes ces choses et qu'il bâtisse le palais pour lequel j'ai fait des préparatifs. Nous bâtissons, nous, un palais. Nous bâtissons le Hekal, comme il est dit dans l'Ancien Testament en hébreu. Nous bâtissons le sanctuaire de Dieu. Le temple de l'Éternel, c'est le sanctuaire de Dieu. Nous bâtissons l'Église. Nous sommes là des bâtisseurs. Nous sommes des bâtisseurs, non pas de choses qui restent sur la terre, mais avec notre Maître et sur le fondement de Christ, nous bâtissons et nous devons bâtir. Nous ne sommes pas là pour démolir, c'est-à-dire on démolit ce qui est du diable. Mais il faut bâtir ce qui est de Dieu, bâtir sur le fondement de Christ. Et nous bâtissons dans le même principe que David envisageait ici l'élévation du temple par son fils Salomon. Et nous pouvons dire, tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Par conséquent, il faut que l'Esprit nous apporte les matériaux, les richesses, pour que nous les offrions à Dieu. Sans quoi, nous n'avons rien à offrir à Dieu, si l'Esprit n'est pas avec nous. Pour prier, il faut donc non pas se mettre tout aussitôt à considérer nos besoins. Si on aborde la prière en disant « Seigneur, j'ai besoin de ceci, Seigneur, j'ai besoin de cela, Seigneur, guéris-moi, Seigneur, guéris mon père, guéris ma mère, guéris mon fils, sauve un tel, etc. » N'est-ce pas? Nous entrons tout de suite dans la présentation de nos requêtes. Eh bien non, c'est une prière qui ne sera pas bonne parce qu'elle n'est pas soutenue par l'Esprit. Il y a des gens qui ont un carnet de prière, ça s'est fait pendant longtemps ça. Alors sur le carnet ils écrivent des noms, ils en mettent, et puis alors ils se donnent à charge tous les soirs, souvent, de lire tous ces noms. Alors, plus ça va, plus la liste s'allonge, et alors ils lisent, et on retombe dans les errements catholiques. On retombe absolument, n'est-ce pas, dans l'imagination qui provient de la chair. Mais s'il y a des noms à présenter au Seigneur, il faut que ce soit le Saint-Esprit qui nous les rappelle, ces noms. Sans quoi, n'est-ce pas, ce sera tout à fait artificiel. Alors, ne nous mettons pas tout aussitôt à considérer nos besoins, nos difficultés, nos craintes, mais d'abord, quand nous voulons prier, et il faut que nous prions souvent, eh bien, il faut comparaître devant Dieu, il faut s'élever vers Dieu. Il faut s'élever vers Dieu, il faut aller vers Dieu. Et nous allons voir que aller vers Dieu, cela s'appelle dans toute l'Écriture, je vous dis bien, pour étudier une chose, il faut prendre toute l'Écriture, cela s'appelle par différentes expressions. Cela s'appelle, notamment dans l'Ancien Testament, chercher ma face. Chercher ma face. Cela s'appelle aussi élever nos âmes à Dieu. Cela s'appelle aussi approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Approchez-vous de Dieu. Si je ne fais pas cette approche de Dieu, eh bien, je risque tout simplement de me trouver loin de lui et je ne parle pas vraiment à Dieu. Dieu, je ne suis pas dans les conditions de la prière par l'Esprit. Alors, je vais parler et c'est mon moi qui vais parler, n'est-ce pas? Je vais tirer de moi-même, de mes connaissances enregistrées dans la mémoire, je vais tirer sur tout cela. N'est-ce pas, les choses que je vais dire à Dieu. Et Dieu, lui, je ne suis pas venu vers lui. Alors il ne s'est pas approché. Si je ne m'approche pas, il ne va pas s'approcher. Mais si je m'approche, il s'approchera de nous. Et nous ne pouvons pas manquer d'être impressionnés. Impressionnés, il faut que nous soyons impressionnés, mes amis. C'est pas seulement des choses qu'il faut retenir. Il faut être impressionné, il faut être bousculé par la parole de Dieu, impressionné de cette redite constante à chercher ma face, chercher continuellement ma face, chercher continuellement ma face. Et cela, nous l'avons dans bien des textes, je vais en lire simplement quelques-uns, nous élever vers Dieu, chercher la face de Dieu. Prenons d'abord le Deutéronome 4:29. Deutéronome 4:29. Là, l'Éternel allait désigner un certain lieu, et ce lieu, ça allait être Jérusalem, la ville de Jérusalem. C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Voyez-vous, si tu cherches Dieu de tout ton cœur. Je ne suis pas, moi, l'homme religieux, et Dieu ne veut pas que je sois l'homme religieux qui soit un moulin à prière. Alors, tout à coup, on met le contact, n'est-ce pas, puisque tout est électrique maintenant, et puis je me mets à prier. Alors, je dis des paroles, n'est-ce pas? Et non, c'est pas ça. Il faut d'abord que je cherche la face de Dieu. Et j'ai besoin de chercher la face de Dieu. Parce que, il arrive, dans le cours de mon existence, que la chair autour de moi fait en somme souvent un barrage avec le Seigneur Dieu. Je ne suis pas dans les dispositions de cœur qui me permettent tout de suite de présenter à Dieu mes requêtes. Il faut que je cherche Dieu. 1 Chronique 28:9. Et je vous rappellerai tout à l'heure un homme, un Israélite, qui a cherché Dieu de tout son cœur et qui l'a trouvé si bien, il était en telle communion avec Dieu qu'il l'a vu. Je vous parlerai de cet homme-là tout à l'heure. Il l'a vu. 1 Chronique 28:9. Attendez. 1 Chronique 28:9. Oui, c'est ça. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Vous voyez comme ce verset contient de bonnes choses. Sers-le d'un cœur dévoué. D'abord, la prière, c'est un service que nous assurons. C'est un service. Sers-le d'un cœur dévoué, d'une âme bien disposée. Mais n'oublie pas une chose, en somme, dit David à son fils, n'oublie pas une chose, attention, c'est que l'Éternel y voit clair en toi. Il voit en toi. Attention, si ton cœur n'est pas droit, si ton cœur n'est pas bien disposé, le Seigneur le voit bien. Il sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Alors, si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Nous avons 2 Chroniques 15, verset 1. L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Oded, et Azaria alla au-devant d'Asa et lui dit, « Écoutez-moi, Asa et tout Juda et Benjamin, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui, si vous le cherchez. » Invitation à chercher l'Éternel. Chapitre 15, toujours, verset 14. Ils jurèrent fidélité à l'Éternel à voix haute, avec des cris de joie et au son des trompettes et des cors. Tout Juda se réjouit de ce serment, car ils avaient juré de tout leur cœur, ils avaient cherché l'Éternel de plein gré, et ils l'avaient trouvé, et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Et où la prière va nous procurer du repos de tous les côtés? Ça veut dire ça. Du repos aussi bien dans le contexte de notre existence, dans tout ce qui, tous les petits événements, les petites circonstances qui tissent notre existence courante, que dans notre vie spirituelle, notre vie plus élevée vers Dieu, n'est-ce pas? Alors, dans tout cela, nous allons avoir du repos, c'est-à-dire de la joie, de la paix. Nous allons être bien, nous sentir bien, non pas écrasés, mais au contraire, nous allons goûter le ciel. Nous allons goûter le ciel. Et nous allons maintenant venir aux psaumes. On ne peut pas étudier la prière sans les psaumes. Je vous l'ai déjà dit, parce que les psaumes, c'est un recueil de cantiques prières. C'est une mine pour la prière, le psaume. Alors, nous allons lire d'abord dans le psaume 9, verset 11. Ceux qui connaissent ton nom, je pense que nous connaissons le nom de Dieu, nous connaissons le nom de son Fils, et ce nom précieux nous a sauvés. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Tu ne les abandonnes pas, tu ne vas pas les priver de tes bienfaits, de tes exaucements, tu ne les abandonnes pas. Hein? Si nous n'avons pas d'exaucement de prière, c'est que le Seigneur nous a abandonnés. Il faut que nos prières soient exaucées. Hein? Alors là, tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. Vous me direz, mais ça, c'était peut-être l'Ancien Testament, ce n'est plus dans le Nouveau. Je n'aime pas ça qu'on dise ça. Je n'aime pas ça, parce que souvent, ça dénote un esprit de séparation. On déchire la Bible en deux. Et puis, il y a ceci. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hein? Alors, s'il est le même, eh bien, il veut qu'on le cherche encore aujourd'hui. Nous avons maintenant le psaume 22. Le psaume 22. Psaume 22, verset 27. Les malheureux mangeront et se rassasiront. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive, vive à toujours. Voyez-vous, les malheureux qui vont chercher l'Éternel, eh bien, ils auront de quoi manger et ils seront rassasiés. Sur le plan du corps seulement, non. Nous pouvons, nous, facilement comprendre, et vous savez, il y a beaucoup d'élévations dans les psaumes, beaucoup de choses qui nous transportent tout de suite dans les régions de l'esprit. Les malheureux mangeront et se rassasieront. Nous sommes des malheureux. Non pas à certains égards, parce que nous sommes enfants de Dieu, mais nous sommes des malheureux dans ce, sur cette terre, si vous voulez, parce que la terre est actuellement le séjour du malheur, et nous sommes parmi les malheureux de la terre, les petits, les misérables, dont Dieu s'occupe, que Dieu transforme, c'est vrai, mais nous sommes quand même encore là, parmi les malheureux de la terre. Eh bien, si nous sommes de ceux qui cherchent l'Éternel et qui le célèbrent, nous nous rassasirons de ses bienfaits, de ses exaucements de prières. Et notre cœur vivra, notre âme vivra, notre esprit vivra. Notre cœur dans l'Ancien Testament, c'est l'esprit. Dans le Nouveau, notre esprit vivra. Nous allons maintenant regarder le psaume 25. Je passe le joli psaume 23. N'est-ce pas? Il aurait bien des choses à nous dire aussi, mais on le connaît beaucoup. Je passe sur lui et je vais au psaume 25. Psaume 25, verset 1. Éternel, j'élève à toi mon âme. Mon Dieu, je me confie en toi, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. J'élève mon âme à Dieu, voilà ce qu'il faut faire. Il faut commencer par élever son âme à Dieu. Et il faudrait prier autant que possible, quand vous le pouvez, la Bible ouverte est souvent ouverte au livre des psaumes, dans le psautier. Ça vous fera du bien, vous pouvez l'ouvrir ailleurs aussi, mais la Bible ouverte, lire quelque chose, n'est-ce pas, ou penser intensément quelque chose de Dieu, une pensée qui vous sera venue dans le cœur, et élevez votre âme à Dieu. Dans le christianisme, pendant un temps, on a beaucoup parlé de l'élévation de l'âme à Dieu. On n'en parle plus aujourd'hui. Pourquoi ça? Ça a disparu. Élever son âme à Dieu. Mais c'est une chose excellente. On a trop, voyez-vous, trop. D'une bonne chose, on en fait quelquefois une mauvaise. Nous, voilà comment nous sommes. D'une bonne chose, on en fait une mauvaise. Alors on dit, je suis baptisé en Saint-Esprit. Je suis le temple du Saint-Esprit. Alors on dit, j'ai plus besoin de chercher Dieu, je n'ai plus besoin d'élever mon âme puisque j'ai le Saint-Esprit là. C'est une erreur. Parce que le Saint-Esprit, nous pouvons très bien l'attrister. N'est-ce pas? Si nous n'entretenons pas notre relation avec Dieu, nous attristerons le Saint-Esprit. Psaume 24, verset 3. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son saint lieu? Point d'interrogation. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Jacob, c'est dans un sens large, l'Israël de Dieu. L'Israël de Dieu. Voilà. Alors, qui pourra monter à la montagne? Qui s'élèvera? Il faut que je monte à la montagne. Moïse, il voyait Dieu, il parlait à Dieu sur la montagne. Et alors, c'est pas la peine de chanter « Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu. » Alors, on le chante, mais on ne le fait pas. C'est pas? Alors, est-ce qu'on le fait, ça? Élever son âme, comment voulez-vous monter sur la montagne? Il ne s'agit pas d'aller au Mont Blanc. 4806 mètres, n'est-ce pas? On serait capable de se tuer en montant parce qu'on n'est pas des alpinistes, mais nous sommes spirituellement des alpinistes capables de monter à la montagne de l'Éternel et de nous élever jusqu'à son saint lieu, monter sur le Sinaï, monter là sur la montagne des béatitudes. Il faut le faire tout ça, voyez-vous. Moi je suis un peu chagrin, je suis souvent chagrin. Chagrin quand je vois une distorsion, c'est-à-dire une disparité, quelque chose qui ne va pas ensemble, des choses qui ne vont pas ensemble. Et des choses qui ne vont pas ensemble, c'est souvent ce que nous chantons et ce que nous faisons. Ça ne marche pas ensemble. Nous chantons des belles choses, nous, quelquefois dans la prière, nous disons aussi des belles choses, mais ça ne marche pas avec ce que nous faisons réellement, avec notre vie intérieure, notre vie spirituelle. Ça ne marche pas. Ça devrait marcher, ça devrait être ensemble, ça devrait se correspondre. Nous allons maintenant au psaume 70. Psaume 70. Oh, vous savez, j'en passe beaucoup, je ne prends que certains passages. Psaume 70, verset 5. Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi, que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, exalté soit Dieu. Moi, je suis pauvre et indigent, ô Dieu, hâte-toi en ma faveur, tu es mon aide et mon libérateur éternel, ne tarde pas. Ça, c'est la prière, voyez-vous. Mais pour faire cette prière-là, il faut être de ceux qui cherchent l'éternel. Alors ceux-là sont dans l'allégresse et se réjouissent. Ceux qui aiment ton salut, ceux qui ont l'amour de l'avènement du Seigneur, l'amour de la vérité, sans compter l'amour du Seigneur lui-même, bien sûr. Alors ils disent sans cesse, exalté soit Dieu, ils cherchent Dieu, bien qu'ils soient pauvres et indigents, eh bien, Dieu se hâte en leur faveur, il est leur aide et leur libérateur. Nous avons besoin d'un libérateur pour bien des circonstances de notre cheminement sur la terre. Le psaume 105, verset 1. Le psaume 105. Il y en a des belles choses dans l'écriture. Psaume 105, verset 1. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits, chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles, glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse, ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. Oh. Voyez, si je veux le secours de l'Éternel, si j'ai recours à l'Éternel et à son appui, et bien sûr qu'il me faut son appui tout le temps, et bien alors, cherchez continuellement sa face. N'arrêtez pas pour prier de chercher sa face. Et bien d'autres, mais je vais prendre un peu aussi dans les proverbes. Proverbes chapitre 28, verset 5. Les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste. Comprennent pas, les hommes livrés au mal, comprennent rien de la sainteté de Dieu, de la justice de Dieu. Mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Ah, c'est magnifique ça. Ils comprennent tout, ceux qui cherchent l'Éternel, ceux qui s'avancent, ceux qui sont constamment élancés vers leur Dieu, par leur cœur, n'est-ce pas, par leur foi, par leur amour. Alors, ils comprennent tout. Il y a une traduction dans d'autres termes de ça, dans le Nouveau Testament. Qui va me la dire? Une traduction de ça, ils comprennent tout. Ils comprennent tout, tout. Oui. Nous avons la pensée de Christ. Nous ne sommes jugés par personne et nous jugeons de tout. Voyez-vous, c'est exactement la correspondance, n'est-ce pas? Ils comprennent tout. Rien ne leur est voilé, n'est-ce pas? Dieu les éclaire intérieurement, illumine leur cœur, ils comprennent tout. Et ils jugent de tout. C'est-à-dire qu'ils ont, n'est-ce pas, la bonne compréhension, la bonne pénétration de tout ce qui est dit. Nous avons aussi Ésaïe 26, 9. Ésaïe 26, 9. Mon âme te désire pendant la nuit et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Au-dedans de moi, mon esprit te cherche. Ah, voyez, chers amis, n'est-ce pas, le commencement de la prière, ce sera ça. C'est pas chercher l'Éternel. Ne pas élever la chair ne doit pas s'élever, au contraire, il faut l'abaisser. Mais l'Esprit, lui, s'élève vers Dieu. Il faut que l'Esprit s'élève vers Dieu. Bon, je ne vais pas aller plus loin dans l'Ancien Testament, bien que j'ai laissé pas mal de richesses de côté, et je vais vous montrer dans le Nouveau Testament qu'il y a dans d'autres termes, c'est-à-dire s'approcher de Dieu, ce qui était d'ailleurs aussi dans l'Ancien. Je ne l'ai pas montré, mais c'était dans le psaume 73 notamment, s'approcher de Dieu. Je m'approche. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. Eh bien, dans Éphésiens 3, 12, Éphésiens 3, verset 12, en qui il s'agit de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Je prends la phrase en cours de route, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Voyez-vous, il faut s'approcher de Dieu. Nous avons la liberté de nous approcher de Dieu, mais ce n'est pas parce que nous sommes ici enfants de Dieu que nous allons, n'est-ce pas, nous dire, moi, je n'ai plus rien à faire, je ne bouge plus. Oui, alors si je ne bouge plus, eh bien, Dieu va s'éloigner, moi je vais m'éloigner de Dieu, nous allons, n'est-ce pas, nous trouver séparés. Jacques, dans son épître, Jacques, nous dit, chapitre 4, verset 8, même on peut lire verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus, sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera, pour que vous sortiez précisément de tout ce marasme-là. N'est-ce pas ? Il vous élèvera. Mais ça, c'est constant, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Et ceux qui font l'expérience de la prière soutenue, de la prière persévérante, de la prière qui jaillit là comme une force vers Dieu, une force de l'âme, eh bien, ils savent très bien que Dieu s'approche, Dieu s'approche, Dieu s'approche. Et je vous parlais d'un homme qui avait, un Israélite, un homme de l'ancienne alliance, qui avait cherché Dieu, et puis il l'a vu. Il l'a vu de ses yeux. Il l'a vu tellement Dieu s'est approché de lui. Il l'a vu. Qui c'est cet homme-là ? Eh bien, cet homme-là, il s'appelle Nathanaël. Nathanaël. Nathanaël, c'était un jeune homme israélite, plein de désir de s'approcher de Dieu, désir d'être vraiment l'homme pieux que Dieu aime. Alors, comme d'autres, il était venu au Jourdain. Là, il avait trouvé Jean-Baptiste, et puis tous ceux qui étaient autour de lui, tous ses disciples, et il était resté là avec Jean-Baptiste, et très probablement, on peut même dire certainement, il a été baptisé du baptême de repentance, par Jean-Baptiste, qui baptisait, n'est-ce pas, au Jourdain. Il a été baptisé, et alors, à un certain moment, il avait quitté toute la cohue, si on peut dire, tous ces gens qui entouraient Jean-Baptiste, et il s'était éloigné dans la campagne. Et là, au-delà de la vallée du Jourdain, il y avait un désert qu'on appelait le désert de Juda. C'était un endroit qui était pierreux, il n'y avait pas grand-chose, c'était pas absolument nu. Et il poussait des arbres, des plantes sauvages, et notamment des oliviers qui étaient... qui étaient en très grand nombre. Ben, les figuiers, vous voyez, ça pousse dans les murs, ça pousse partout. Ben, alors, il était là, il s'était écarté, puis il était tout seul, absolument tout seul, dans la campagne. Et là, il avait élevé son âme à Dieu, il avait cherché l'Éternel, se mettant à l'abri de la chaleur sous le figuier, et là, il avait eu son temps de communion intense, de recherche de l'Éternel, et il avait senti que l'Éternel était venu dans son âme, dans son cœur, il avait senti la présence de l'Éternel, il l'avait senti là tout près de lui, peut-être l'Éternel lui avait-il dit quelque chose, dit dans son cœur quelque chose, et puis il revient, il regagne le Jourdain, et alors voici que Philippe lui dit, écoute, viens, nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé, pas, nous avons trouvé le Messie. Avons trouvé le Messie. Le Messie, c'est Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth, oh, que me dis-tu là ? De Nazareth, rien de bon ne peut venir. Rien de Nazareth. C'était, vous savez, ce qu'on colportait de bouche à oreille comme ça, n'est-ce pas, à ce moment-là. C'était un préjugé stupide. Mais Nazareth était cette bourgade, en somme, méprisée de toute la renommée. Alors, de Nazareth, tu veux qu'il vienne quelque chose de bon de là ? Hein ? Non, c'est pas possible, ça. C'est pas possible. Eh bien, écoute, lui dit Philippe, viens et vois. Tu verras bien. Bien quand même. Et Nathanaël s'approche. Et quand Jésus le voit, il dit, voilà un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude, il n'y a point de tromperie. Lui-là, il est pur de tromperie, il est sincère, il est droit de cœur. Voilà un Israélite. Alors, Nathanaël, étonné, dit à Jésus, mais la première fois que je te vois, d'où me connais-tu? Comment tu peux me connaître? Comment me connais-tu pour dire ça, que je suis un homme qui n'est point de fraude, n'est point de tromperie en moi? Alors Jésus lui dit, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Ah, mais j'étais loin de toute vue humaine, loin, et c'était plusieurs heures avant, c'était peut-être la veille même, ou l'avant-veille. Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et Nathanaël, qu'est-ce qu'il avait senti sous le figuier? L'approche de Dieu. Oh, tu es vraiment le Fils de Dieu. Tu es le Fils de Dieu. Ah, là c'est extraordinaire. Il voit dans la personne de Jésus celui dont il avait senti la présence en esprit. Chers amis, croyez que c'est pas merveilleux ça? Vous croyez que ça nous parle pas ça? Et vous croyez que ça ne nous dit pas que, bien sûr, nous n'allons pas chercher, nous, une vue, c'était vraiment une circonstance magnifique, exceptionnelle que celle de Nathanaël. Mais cela nous instruit, tout nous instruit dans l'Écriture. Il n'y a pas une circonstance qui ne soit pour nous une direction, un guide, une invitation. Alors, si nous cherchons l'Éternel, nous cherchons l'Éternel, comme avait fait ce jeune Israélite avec tout son cœur, et le Seigneur Jésus rend témoignage de lui qu'il n'y avait pas de fraude, c'est-à-dire qu'il avait un cœur pur. C'est ça qu'on appelle le cœur pur. Il était pécheur comme les autres. La preuve, c'est que il dit sur Jésus une parole qui n'est pas bonne, n'est-ce pas? Mais il avait le cœur droit, le cœur pur. Et Dieu aime ces gens-là, parce qu'il peut faire quelque chose avec ces gens-là. Comprenez? Alors, c'est extraordinaire, n'est-ce pas? Si vraiment nous cherchons Dieu de tout notre cœur, si nous élevons notre âme, si nous persistons à le chercher continuellement ma face, eh bien, Dieu se laisse trouver, Jésus se laissera trouver. Je ne dis pas que vous aurez une vision de Jésus, n'est-ce pas, avec une vision intérieure ou une vision avec vos yeux, ce qui n'est pas impossible, bien sûr. Mais je ne dis pas cela, que la Bible ne nous dit pas, n'est-ce pas, d'enseigner cela. Mais nous aurons une telle sensation, un tel sentiment, une telle relation de notre être avec Jésus, qu'il sera présent, vraiment présent. Moi, je me rappelle des moments où je faisais ce geste-là parce que je croyais le prendre par le bras, le toucher, tellement je sentais présent là. Présent, présent, vraiment présent là, n'est-ce pas? Et puis alors, vous comprenez, s'il est présent, eh bien, il parle. Il ne va pas toujours parler d'une façon audible pour nos oreilles, mais il va parler dans le cœur. Ça, c'est, il parle beaucoup dans le cœur. Il faut qu'il s'approche. Il faut que nous le cherchions continuellement. Alors là, vous comprenez que si on fait les prières dans une telle communion, il y a des bouquins qui enseignent la prière et comme condition excellente et magnifique de la prière, la communion avec Christ. Mais si nous avons cette communion avec Christ, n'est-ce pas, là, cette communion nous étant approchée, mais notre prière va être magnifique si vous demeurez en moi, si vous vous maintenez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Demandez ce que vous voudrez. Je ne vous limite pas. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Même ailleurs, le Seigneur dit, vous voyez, presque, alors là, ne mentionnant même pas le Père, il dit, quand vous demanderez quelque chose en mon nom, je le ferai, je le ferai. Jésus dit, je le ferai. Et quand il dit, je le ferai, il s'identifie au Père, il se présente là, à ce moment-là, comme un avec le Père, je le ferai. Voilà, n'est-ce pas, la condition de la prière. Pour que notre prière soit pas une prière, excusez l'expression catholique, prière de forme, une prière, n'est-ce pas, de quelqu'un qui se donne un devoir. Il s'impose un devoir pour prier. Non, une prière en cherchant l'Éternel Dieu, si vous le cherchez de tout votre cœur, il se laissera trouver, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Et c'est impressionnant de voir toute l'Écriture nous parler de cela, chercher continuellement sa face. Quand dans le Nouveau Testament il nous est dit prier sans cesse, ça veut dire essentiel, ça contient cela, cherchez sa face, approchez-vous du Seigneur, vous avez la liberté de vous approcher de vous, de lui, approchez-vous de lui, et lui, il s'approchera de vous, et à ce moment-là, vous pouvez demander ce que vous voudrez, et vous l'avez. Amen.